Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30 en universel. Nous sommes lundi 16 avril 2018 au sommaire. Les 33 députés de l'opposition tchadienne ont décidé de boycotter les travaux parlementaires relatifs à l'adoption de la nouvelle constitution. Un sommet Afrique-États-Unis consacré à la sécurité s'est ouvert ce lundi à Abuja. La lutte contre le terrorisme au centre des discussions. Ici aux États-Unis, le président Trump s'en prend à l'ancien directeur du FBI, James Comey, après la publication d'extraits de son livre à paraître. La Russie rejette les accusations selon lesquelles elle aurait entravé l'accès d'une mission d'inspection à la ville syrienne de Douma. Et en partie magazine, nous parlerons de paludisme avec une conférence qui se tient à Dakar sur la maladie.
Vous savez que le paludisme est lié directement au climat et aussi au climat électrique, qui impacte directement sur la résistance du paludisme.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Bienvenue à tous. On démarre par la République démocratique du Congo, où le président Kabila a révoqué plus de 250 magistrats accusés de corruption ou d'incompétence selon une série d'ordonnances rendues publiques ce lundi. Au total, 174 magistrats ont été révoqués, 70 démis d'office, 12 relevés de manière anticipée selon cette série de documents publiés par l'agence congolaise de presse. Deux autres magistrats ont démissionné volontairement et un a été mis à la retraite. La RDC compte environ 4000 magistrats civils et militaires recrutés sur base d'un concours national. Aujourd'hui, à N'Djamena, au Tchad, les députés de l'opposition ont boycotté les travaux parlementaires pour l'adoption d'une nouvelle constitution. Elle prévoit un régime présidentiel intégral qui vise à renforcer les pouvoirs du président. Les députés qui sont contre cette loi réclament un référendum pour l'adoption du texte. Le point avec Lionel Gaïma.
Tous les travaux liés à la nouvelle constitution seront boycottés jusqu'au 30 avril 2018, a fait savoir Ahmad Saleh Rakis, député de l'opposition et sixième vice-président de l'Assemblée nationale tchadienne. M. Rakis et 32 autres députés sur un total de 170 réclament un référendum sur la question. Le mois dernier, l'adoption par le gouvernement d'un projet de loi constitutionnelle instaurant un régime présidentiel intégral au Tchad avait créé un mouvement de révolte chez les députés de l'opposition. Ces derniers estiment que la nouvelle constitution renforcerait les pouvoirs du président tchadien Idriss Déby Itno. Selon l'opposant Saleh Kebzabo, arrivé deuxième à la présidentielle de 2016, si quelques apparences restaient, maintenant c'est un pouvoir sans partage. Le président Idriss Déby Itno est âgé de 65 ans, dirige le Tchad depuis 1990 après 5 mandats. Si la loi est adoptée, le chef de l'État tchadien pourra se présenter de nouveaux élections présidentielles en 2021 et effectuer 2 mandats de 6 ans jusqu'en 2033. Le projet de loi sera examiné par un comité technique de l'Assemblée nationale avant d'être soumis au vote des parlementaires le 30 avril. Quant aux élections législatives, elles sont fixées à novembre prochain suite à plusieurs ajournements.
Au Nigeria, au moins 4 policiers ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés dans l'état de Benue, dans le centre du pays où un conflit entre agriculteurs et nomades a fait des centaines de morts depuis janvier. La police annonce l'envoi de renforts, y compris de moyens aériens. Le gouvernement a déployé l'armée dans plusieurs états, dont celui de Benue, pour tenter d'endiguer ces violences intercommunautaires. Début à Abuja d'une réunion regroupant des militaires de plusieurs pays d'Afrique, une conférence co-organisée par les États-Unis. Objectif, renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Le point avec Eric Manelakiza.
La haute hiérarchie militaire des pays d'Afrique dialogue sans détour sur la sécurité sur le continent. Les menaces djihadistes sont particulièrement évoquées. Il s'agit des Shebab à l'est, Boko Haram à l'ouest, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI au Mali et au Niger. Des représentants des armées angolaises, camerounaises, égyptiennes, kenyanes et rwandaises participent notamment à ce sommet des forces terrestres africaines. Le président Donald Trump a poursuivi la politique de son prédécesseur Barack Obama, qui avait renforcé la présence militaire américaine dans plusieurs pays d'Afrique. Peu avant son limogeage à mars dernier, l'ancien secrétaire d'État américain Rex Tillerson avait promis l'assistance militaire de Washington lors de sa tournée dans 5 pays d'Afrique.
Et puis le président nigérien Muhammadu Buhari rencontrera Donald Trump à Washington, ce sera le 30 avril. Ils évoqueront notamment la lutte contre le terrorisme. Le président Trump a hâte de discuter des moyens d'accroître notre partenariat stratégique et de faire avancer nos priorités communes, a souligné la présidence américaine dans un communiqué. Il s'agit de la croissance économique et des réformes ainsi que la lutte contre le terrorisme. Au Niger, 3 militants de la société civile ont été arrêtés après des heurts à Niamey entre la police et des manifestants qui ont bravé l'interdiction d'une marche contre la loi des finances. Les arrestations survenues hier font suite à celles de 4 principales figures de la fronde contre la loi des finances qui avaient déjà été arrêtées dans des circonstances similaires le 25 mars dernier. La police sud-africaine a perquisitionné une des résidences des Gupta, cette puissante famille d'hommes d'affaires proche de l'ancien président Jacob Zuma, et est accusée d'user de son influence pour se faire octroyer des contrats avec le gouvernement. Selon un porte-parole du parquet, la descente de la police sud-africaine au domicile des Gupta s'est faite dans le cadre d'une enquête pour vol, fraude et blanchiment d'argent.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, 7 détenus sont morts et 17 autres blessés dans une mutinerie survenue dans une prison de haute sécurité de Caroline du Sud. La mutinerie a éclaté hier soir, ont précisé les services pénitentiaires sur Twitter, ajoutant qu'elle avait été maîtrisée tôt ce matin. L'incident a impliqué plusieurs prisonniers, une enquête est en cours. Toujours aux États-Unis, l'ancien directeur du FBI, James Comey, a qualifié le président Donald Trump de moralement inapte à diriger les États-Unis dans une interview qu'il a accordée à la chaîne de télévision ABC. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'interview diffusée par la chaîne de télévision ABC intervient avant la publication demain mardi des mémoires de James Comey, ancien directeur du FBI, un ouvrage de 300 pages intitulé « A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, Mensonges et Vérité » en français. Le livre présente M. Trump comme un boss mafieux, un être malhonnête et égocentrique. M. Comey qualifie le président de menteur, je cite, « qui salue tous ceux qui sont autour de lui ». Je ne crois pas qu'il soit médicalement inapte. Je crois qu'il est moralement inapte à être président, a martelé M. Comey. Il a estimé possible, mais pas certain, que les Russes détiennent des éléments compromettants susceptibles de faire chanter Donald Trump. Il a ajouté qu'il est possible que le président ait fait obstruction au travail de la justice lorsqu'il lui a demandé d'abandonner une enquête sur Michael Flynn, ancien conseiller à la sécurité nationale. L'ancien directeur du FBI dit toutefois ne pas souhaiter une destitution du président. Donald Trump a limogé M. Comey en mai 2017, mettant en cause la manière dont le FBI a mené l'enquête sur l'usage illégal par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, d'un serveur privé pour ses emails. Le président américain fustige aussi l'enquête du FBI sur des soupçons de collusion entre son équipe de campagne et des responsables russes pendant la présidentielle de 2016.
Une mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques séjourne à Damas. C'est pour enquêter sur la présumée utilisation des armes chimiques par le régime de Bachar el-Assad. Selon le Royaume-Uni, la Russie et la Syrie n'ont pas encore autorisé l'accès à Douma. Irénée Irman Umbo.
Malgré les frappes occidentales en Syrie contre la volonté de Moscou, le Kremlin espère encore engager un dialogue avec Washington. La Russie rejette cependant les accusations de Londres selon lesquelles elle aurait entravé l'accès de la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à la ville syrienne de Douma, théâtre d'une récente attaque chimique présumée. Des diplomates russes et français sont en réunion d'urgence ce lundi au siège de l'OIAC à La Haye pour convenir d'un accord en vue de faciliter l'accès à l'organisation. Pour ce qui concerne la menace américaine de retirer ses troupes de la Syrie, le président français Emmanuel Macron dit avoir convaincu son homologue américain de les y maintenir. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a annoncé que la mission des forces américaines déployées en Syrie n'a pas changé. En revanche, Donald Trump veut qu'elle rentre aux États-Unis dès que possible.
La statue du 33e président américain Harry Truman à Athènes a été prise pour cible ce lundi par un groupe de jeunes manifestants proches du Parti communiste grec. Ils protestaient contre les récentes frappes occidentales en Syrie. L'ex-présidente sud-coréenne ne fera pas appel de sa condamnation à 24 ans de prison dans le scandale de corruption qui a entraîné sa destitution en 2017. Il y aura cependant un nouveau procès puisque le parquet sud-coréen qui avait requis 30 ans de détention contre l'ancienne présidente a fait appel de la condamnation de première instance prononcée le 6 avril. Park Geun-hye, 66 ans, avait été reconnu coupable de corruption. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique, c'est dans la Minute Éco présentée ce soir par Eric Manelekiza.
La BAD va débourser plus de 43 millions d'euros pour la construction du pont sur le fleuve Logone entre les villes de Yagoua au Cameroun et Bangor au Tchad. Il s'agit d'un financement partiel du projet car la BAD devra débloquer au total 66 millions d'euros pour l'ouvrage. Ce pont est long de 650 mètres pour environ 92 milliards de francs CFA. Le Cameroun doit réunir 58% du financement et le Tchad 42%. Le FMI veut reprendre son programme de financement pour le Tchad. L'accord conclu entre N'Djamena et un groupe de créanciers composé de la société Glencore et quatre autres banques a motivé la décision de l'institution de Bretton Woods. L'accord porte sur la restructuration $1 milliard de dettes de l'État tchadien envers ses entreprises. Le FMI va débloquer $51 millions qui s'ajoutent aux $48 millions débloqués l'année passée. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Éthiopie ont convenu d'un financement de $57 millions pour la rénovation de l'Africa Hall. Le projet vise à moderniser les installations du site, préserver et restaurer les valeurs historiques et culturelles ancrées dans son architecture. Les travaux devraient être terminés d'ici à 2021. L'Africa Hall fait office de siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il a été construit entre 1959 et 1961 et inauguré par l'empereur Haïlé Sélassié Ier le 26 février 1961.
Et à présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Visite d'inspection de la FIFA au Maroc.
Et oui, un groupe d'évaluation de la FIFA a commencé ce lundi sa première visite d'inspection au Maroc. Vous le savez, le pays est candidat à l'organisation du Mondial 2026 face à la candidature conjointe des États-Unis, du Mexique et du Canada. La délégation doit notamment inspecter dès mardi le grand stade de Marrakech, inauguré en 2011 en périphérie de cette ville très touristique et qui accueille des rencontres internationales. La mission de la FIFA se poursuivra ensuite à Agadir, à Tanger et à Casablanca, la FIFA qui doit publier ses résultats à l'issue de cette tournée d'évaluation de 3 jours. On rappelle qu'un groupe de travail de la FIFA a effectué la semaine dernière des visites similaires à Mexico, Atlanta et New York, puis Toronto. On rappelle enfin que les 207 fédérations membres de la FIFA désigneront l'organisateur du Mondial 2026. Ce sera le 13 juin à Moscou, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde en Russie.
Tour de cadrage, retour de la Coupe CAF.
Les 4 premières rencontres à suivre dès mardi, le Beldouizdad qui accueille en Algérie la SEC Mimosa après la victoire des académiciens 1-0 à l'aller. L'AS Vita Club se déplace chez le voisin du Congo, la Mancha, avec un avantage d'un but acquis au match aller à Kinshasa. L'USM Alger qui devra remonter 1 but de retard après sa défaite au Nigeria devant Plateau United 2-1. Enfin, Al Masri d'Égypte qui devra battre le CF Mounana du Gabon après le match nul à l'aller. Vu partout.
En Italie, l'Inter Milan espère se relancer.
L'Inter Milan qui marque le pas en Serie A se doit de l'emporter demain à San Siro en ouverture de la 33e journée face à Cagliari pour ne pas décrocher et s'éloigner du top 4, synonyme de qualification pour la phase de poule en Ligue des Champions avant le choc de samedi entre la Juventus de Turin, le leader, et son dauphin Naples à 6 points, un match qui pourrait décider du titre.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
James Harden a affolé les compteurs avec Houston, vainqueur de Minnesota 104-101. Harden a fait honneur à son statut de meilleur marqueur de la saison régulière en inscrivant 44 points face aux Timberwolves. Dans l'autre duel de la conférence Ouest, Utah s'est incliné à Oklahoma City 108-116. À l'Est, Cleveland et LeBron James ont entamé les playoffs de la pire des manières en se faisant balayer devant leur public par Indiana 98-80. Dans l'autre duel à l'Est, Boston a dominé Milwaukee en prolongation 113-107.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le président américain Donald Trump a levé la mesure interdisant les visas pour les ressortissants tchadiens devant se rendre aux États-Unis. Il avait mis le Tchad sur la liste dans son dernier décret migratoire en septembre 2017, après avoir constaté des lacunes dans la gestion des documents de voyage et de partage d'informations sur la lutte contre le terrorisme. Réaction des Tchadiens dans ce reportage d'André Kolmajingar, correspondant de VOA Afrique à N'Djamena.
Une décision qui a choqué en son temps nombre de Tchadiens vu l'engagement de leur pays dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. La levée de cette sanction est entrée en vigueur vendredi dernier. Pour Ngaronde Diarma, infirmier à la retraite, la normalisation des relations diplomatiques entre le Tchad et les États-Unis coïncide malheureusement avec double triste anniversaire. L'assassinat du premier président tchadien François Thomas Mbaye dans un coup d'état militaire et la tentative de prise du pouvoir par les armes par un groupe rebelle dirigé par Mahamat Nour.
Effectivement, c'est une date maudite. Qu'est-ce que les gens ont fait pour qu'ils se réconcilient avec eux? Ils nous ont fait du mal. C'est l'Américain, ce n'est ni Rome, ce n'est ni la Mecque. Pourquoi aller là-bas faire quoi? Moi, je trouve que ce n'est pas un événement.
Mahamat Diga Dimbaye, qui coordonne une coalition Touche pas à mes acquis, une société civile proche du pouvoir, a souligné que la levée de cette mesure est une victoire sur une décision prise de manière active. S'agissant du drapeau américain qui a été brûlé lors de la manifestation populaire qu'il a initiée pour protester contre la décision de Trump, Mahamat Diga Dimbaye tente de se justifier.
J'ose vous dire, pour apporter un démenti à cette information, parce que officiellement nous n'avons pas du tout brûlé les drapeaux des États-Unis. C'était une dérive, peut-être quelque part les gens auraient dû faire cela, mais cette manifestation a constitué un déclic important et fondamental dans les négociations.
L'ambassadeur de la paix auprès de la francophonie Abderrahmane Diasnavaï se réjouit de la levée de cette sanction.
Quand je vais à l'extérieur, tout le monde s'étonne comment le Tchad qui a beaucoup fait aujourd'hui se trouve sur une liste noire, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc moi-même quelquefois j'étais en difficulté vis-à-vis des collègues étrangers. Aujourd'hui, on nous a lavé de tout soupçon. Mais j'espère aussi que le gouvernement tchadien tiendra compte de ce qui a été dit et que nos documents de sécurité soient suffisamment protégés.
Pour le président du parti Mouvement National pour le Changement au Tchad, Mahamat Amat Lazina, cette décision ne changera en rien le quotidien des Tchadiens.
Nous saluons cette décision, mais que les États-Unis, au nom de la lutte contre le terrorisme, ne sacrifient pas les Tchadiens. Tout ce qui se passe au Tchad, la communauté internationale est au courant, mais elle ne dit rien. Mais il oublie que ceux qui sont en train de mourir, ce sont les enfants du Tchad.
Selon l'opinion nationale, la levée de cette mesure va accélérer le dossier du directeur de la compagnie Air Interone, Mathias Sarsi, en détention depuis le 30 septembre 2017 pour financement du terrorisme, blanchiment d'argent, faux et usage de faux. Conséquence logique de cette décision. Car déjà en date du 9 avril dernier, la justice a annulé la décision suspendant les activités de transport aérien de la dite compagnie pour vice de procédure. André Kodmadingar Ndjamena, VO Afrique.
Ce soir, dans À votre avis, nous revenons sur les frappes occidentales menées ce week-end en Syrie. Trois sites ont été visés samedi lors de raids organisés par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. L'objectif annoncé était de détruire l'arsenal chimique syrien en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas. Que pensez-vous de cette intervention? Vos réactions ce soir dans À votre avis, Morgane Guiriec en votre compagnie, réagissez en direct à 18h temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook. Nous vous rappellerons. À ce soir.
Au Cameroun, les formations politiques de l'opposition sont en perte de vitesse quand on tient compte des résultats qu'elles ont obtenus au cours des derniers scrutins, selon notre correspondant sur place. Par exemple, le Social Democratic Front, le SDF, le principal parti d'opposition, n'a eu que 7 sièges de sénateurs sur les 70 qui étaient en jeu lors des élections sénatoriales du mois dernier. De Yaoundé, Emmanuel Jultap.
Il y a des raisons évidentes qui justifient le déclin progressif de l'opposition camerounaise. Explication avec professeur Pascal Messanga Nyamding, politologue, enseignant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun.
L'opposition s'auto-neutralise. Pour preuve, vous pouvez voir les positions d'un Cabral Libi qui est candidat à l'élection présidentielle et l'acharnement qu'il a vis-à-vis de M. Kamto qui lui aussi est candidat à l'élection présidentielle. Et puis à côté, On a une opposition complètement éclatée qui polarise la méfiance de plus en plus du peuple sur elle.
En 2013, 14 sénateurs élus étaient issus du Social Democratic Front, le principal parti de l'opposition au Cameroun. Ils ne sont plus que 7 à l'issue des dernières élections sénatoriales. Denis Kouemelo, secrétaire général adjoint du SDF, chargé de la communication.
Si les partis de l'opposition ne font que perdre les élections, c'est parce que la démocratie camerounaise est en perte de vitesse. Vous savez que M. Biya est le seul à prendre toutes les décisions majeures en rapport avec les élections. Les membres de l'ECAM, Élections Cameroun, l'organe chargé de l'organisation matérielle des élections, sont désignés par M. Biya. Il en est de même du ministre de l'administration territoriale, qui est très loyal au président de la République. Les personnes qui incarnent une nouvelle vision pour le Cameroun sont dépossédées des moyens financiers et des ressources humaines par l'appareil étatique au service du parti de M. Biya.
La faible représentation des partis de l'opposition s'est aussi accentuée à l'Assemblée nationale et au sein des exécutifs communaux. Selon Maïdadi Sédou Yaya, membre du bureau politique de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, deux facteurs jouent de plus en plus en défaveur de l'opposition camerounaise.
Les partis ne sont pas tellement appuyés par le peuple. Voilà pourquoi la démocratie n'avance pas dans notre pays. L'alliance entre partis reste nécessaire pour gagner une élection, notamment majeure comme la présidentielle. Le pouvoir est en train de tout mettre en œuvre pour que cette alliance ne se fasse pas.
Reste que l'opposition apparaît de plus en plus désunie à quelques mois des élections municipales, législatives et présidentielles de 2018. Marie-Jeanne Abega, ex-militante du mouvement Alternance 2018, ne croit plus à une candidature unique de l'opposition.
Il y a certains avantages que confère la Constitution lorsque un parti présente son candidat à la présidentielle. On a constaté que beaucoup de gens ne veulent pas que ces avantages soient noyés dans le fait qu'ils soient rentrés dans une coalition.
En 1992, l'opposition s'était retrouvée en pole position à l'Assemblée nationale avec 92 députés sur les 180. Depuis lors, elle s'est affaiblie considérablement au grand bonheur du RDPC, le parti au pouvoir. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une conférence panafricaine sur le paludisme s'est ouverte hier au Sénégal. Plus de 3000 experts prennent part à cette rencontre régionale dont l'objectif est de faire le point sur la lutte contre cette maladie, responsable de plus de 400 000 décès chaque année dans le monde. Plus de détails avec donc Doudou Sen, il est le directeur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal.
90% de la charge de la morbidité et de la mortalité du paludisme sont en Afrique subsaharienne. Et donc, vous comprendrez mieux tout l'intérêt que porte cette conférence dans ce pays, qui regroupe pratiquement tous les scientifiques du monde entier qui travaillent dans le domaine du paludisme et qui, pendant ces 5 jours, vont échanger sur les nouvelles découvertes et sur les nouveaux progrès qu'ils ont eu à identifier dans le domaine de la lutte contre le paludisme pour permettre aux programmes nationaux que nous sommes en Afrique de pouvoir définir les stratégies à adopter.
Docteur Sen, les progrès pour contrôler le paludisme ont stagné. À votre avis, pourquoi est-ce que la maîtrise de la maladie échappe-t-elle toujours aux médecins, aux chercheurs africains?
Mais effectivement, parce que la lutte contre le paludisme, il faut reconnaître, c'est une lutte qui implique pas seulement le secteur de la santé qui sont dans le domaine de la recherche, parce que vous savez que le paludisme est lié directement au climat et au cycle pluviométrique, qui impacte directement sur la résistance du paludisme. Mais également, au-delà de ça, les systèmes de santé en Afrique souvent sont très fragiles et les difficultés sont inhérentes donc à plusieurs facteurs. Déjà, sur la maîtrise de l'assainissement et de pouvoir lutter efficacement contre les inondations, ça c'est l'autre élément qui est en dehors du système de santé. Et pour avoir de bons résultats, je pense qu'en dehors du système de santé, avec tous les efforts qui sont en train de faire, il faut impérativement l'implication des autres secteurs, notamment sur le comportement, parce que également le domaine socio-culturel.
Docteur Doudou, à quoi peut-on s'attendre de cette conférence panafricaine pour tout au moins réduire le nombre de décès dus à cette maladie, notamment en Afrique?
Mais c'est de savoir exactement les nouvelles découvertes, notamment dans le domaine de la vaccination contre le paludisme qui est en test actuellement au Ghana et je pense dans d'autres pays. Et si les résultats de ces tests s'avèrent concluants, que ça peut être une très grande avancée pour la lutte contre le paludisme. En plus de ça, vous savez qu'il y a une résistance des vecteurs et la recherche permet de déterminer les nouvelles molécules qui sont efficaces contre les moustiques et ceux qui sont utilisés pour l'imprégnation des moustiquaires à longue durée d'action. Mais également dans la maîtrise du traitement, parce que vous savez qu'il a été noté un peu en Asie de l'Est une résistance à cette molécule miracle qui est l'artémisinine, qui est la seule la plus efficace combinée à d'autres. Et donc, à la sortie de cette conférence, les chercheurs peut-être pourront donner des nouvelles orientations dans le domaine du traitement et des nouvelles combinaisons qui seront peut-être utilisées en deuxième ligne en cas de résistance des ACC.
C'était Doudou Sen, directeur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal, joint à Dakar par Irénée Herman Lungbo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Retour sur les frappes menées ce week-end par les États-Unis, la France et le Royaume-Uni contre le régime syrien. Trois sites ont été visés avec pour annonce de détruire l'arsenal chimique syrien en représailles à l'emploi présumé d'armes chimiques par le régime de Damas. Des raids menés alors même que Washington affirme ne pas vouloir intervenir en Syrie et prévoit de se retirer du pays. Comment comprendre tout cela? Morgan Guiriec a joint Fred Bruyen, président de l'agence Global Situation Room.
C'est une politique de mettre une ligne rouge en Syrie et voir si Bachar al-Assad, Vladimir Poutine vont prendre les risques de continuer d'utiliser les armes chimiques.
Mais en même temps, quand on affirme qu'on ne veut pas intervenir, pourquoi Bachar al-Assad ou Poutine arrêteraient?
En ce moment, la France, Grande-Bretagne et les États-Unis voudraient prendre une politique de ne pas se mettre dans le conflit en Syrie, sinon juste mettre en garde le gouvernement syrien, la Russie, qu'il faut respecter les normes internationales.
Cette stratégie de frapper dans le but de mettre un peu la pression sur Bachar al-Assad et Poutine, est-ce que ça a des chances de marcher?
À mon avis, non. Il manque vraiment une stratégie derrière ce plan. Bachar al-Assad, Vladimir Poutine savent survivre ces attaques pour qu'il n'y ait pas vraiment des conséquences pour leurs intérêts personnel et pour l'instant, les sanctions qu'on a mises en place ne sont pas du tout suffisantes.
Et comment l'expliquer?
Parce qu'il faut montrer au peuple américain, français, britannique qu'on fait quelque chose. Mais c'est plutôt de théâtre politique au lieu de vraiment avoir une stratégie qui va marcher.
La Maison-Blanche se dit déterminée à écraser l'organisation État islamique et à créer les conditions qui empêcheront son retour. Mais en même temps, elle confirme son intention de retirer ses troupes de Syrie. Ici encore, comment compte-t-elle s'y prendre?
Nous n'avons pas appris les leçons de l'Irak. La décision du président Obama était très tôt de retirer nos soldats de l'Irak. Je crois que le problème, c'est qu'il n'existe pas vraiment une bonne volonté au niveau du peuple américain pour faire le nécessaire. Ne pas seulement frapper, ne pas seulement arrêter les attaques immédiates, sinon éradiquer la présence et aussi l'intérêt de certains extrémistes vers la participation dans un groupe comme l'État islamique.
C'était Brett Bruen, président de l'agence Global Situation Room. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Joselle Morissa. À la console, Joe Gill. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Et dans un instant, retour sur l'actualité avec Henri Francisque. Au revoir.
Vous
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.